Actualité.
Alexandre Dubé.
Monsieur Dubé, bonjour.
Salut Benoît.
Ça ressemble à quoi aujourd'hui?
C'est la tendance qui se poursuit. 189 cas, 24 652 tests, malheureusement deux décès supplémentaires. Au niveau des hospitalisations, on en a 6 de moins pour un total de 251. 4 personnes de plus aux soins intensifs, total de 64. Et on a administré 87 713 doses de vaccins. On va surveiller cet après-midi un point de presse du ministre de la Santé. C'est à 15h30. Il va faire le point, entre autres, sur les retards qui ont été accumulés en chirurgie dans les hôpitaux du Québec. On sait qu'avec tout le délestage, ça a été là, épouvantable, que ce soit là, dans les derniers mois à différents degrés. Et les conséquences de tout ça, on risque de les payer assez longtemps. C'est sans compter au niveau des chirurgies, mais au niveau aussi de la prévention. Il y en a plusieurs, Benoît, qui ont pas nécessairement fait leurs suivis médicaux. On dit, oh, je n'irai pas passer ma mammographie, je n'irai pas faire tel test. Parfois, c'était par crainte de se rendre à l'hôpital parce qu'il y avait des éclosions. Alors, tu vois ça, là, comme société, c'est quand même préoccupant. Alors, on va présenter du côté du gouvernement du Québec et du ministère de la Santé le plan pour réduire les listes d'attente parce qu'au cours des dernières semaines, le taux de délestage des hôpitaux était de 10 à 20 et près de 150 000 patients qui sont en attente de chirurgie actuellement au Québec.
Bon, et assouplissement pour les voyageurs, là, ça augure bien pour cet été?
Oui, puis à plus long terme aussi, je te dirais que l'événement qui risque de toucher le plus de monde à plus court terme, c'est que dès juillet, la fameuse quarantaine ne sera plus obligatoire pour les voyageurs entièrement vaccinés. Par contre, on ne lève pas l'ensemble des mesures, c'est-à-dire que il faudra avoir reçu la deuxième dose du vaccin au moins 14 jours avant l'entrée au pays, que le vaccin en question soit approuvé par Santé Canada. Et cet assouplissement-là ne concerne pas les touristes, mais uniquement les citoyens et les résidents canadiens et les travailleurs essentiels, les étudiants étrangers. Donc, le passage à l'hôtel va continuer de s'imposer au reste des voyageurs, mais sinon, pour les catégories que je viens de te nommer, ben ils vont devoir avoir finalement bon un premier test de dépistage à l'arrivée, présentation d'un plan de quarantaine jugé adéquat par les services frontaliers, c'est-à-dire que là, bon, un test négatif, on reste à la maison. Une fois qu'on a le test que finalement les résultats sont concluables, après ça on peut recommencer à vivre. Donc le ministre Leblanc a souligné qu'un genre de passeport vaccinal aussi était sur le feu en partenariat avec les provinces. On travaillait là-dessus et déjà quelques heures seulement après l'annonce de ces nouvelles directives, l'abolition de cette quarantaine pour les Canadiens vaccinés qui sont de retour au pays, ben ça a fait saliver les voyageurs qui ont très très hâte de repartir. On nous dit que les lignes ne dérougissaient pas au niveau de plusieurs agents de voyage après cette annonce-là. Il y a eu le vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, Éric Boissonneau, il dit que quelques villes européennes comme Paris, comme Rome aussi devraient être très populaire dès cet été. Et il a confié également qu'il anticipait une explosion des demandes de voyage dans le sud pour l'hiver 2021-2022. Déjà, quand on regarde ça, il y a des rabais qui peuvent être assez intéressants. Merci pour ce type de destination-là. Alors, ça va recommencer tranquillement. Et je conclue là-dessus en te mentionnant que dans le Journal de Montréal ce matin, ben, on apprend qu'il y a des mesures liées à la pandémie aux frontières entre avril 2020 et mars 2021 qui ont coûté, tiens-toi bien, 285 millions de dollars. Et selon l'Agence de la santé publique du Canada, Ottawa a payé la quarantaine à l'hôtel pour 5 125 personnes entre février et avril. Plus de la moitié de ces voyageurs ont été hébergés à Toronto aux frais d'Ottawa. À Montréal, c'était 895 voyageurs, 444 à Vancouver. Maintenant, l'agence reste flou sur les critères employés pour décider qui peut bénéficier d'un séjour payé à l'hôtel et qui doit le payer de sa poche, mais affirme que c'est une mesure de dernier recours et cette mesure-là donc se terminera, je vous rappelle, début juillet.
Bon, on a hâte de voyager, hein? 7h, 8h dans un avion là, confiné, c'est vraiment, j'ai vraiment, vraiment le goût de partir.
Moi, je vais peut-être commencer par des trajets un peu plus courts.
Oh boy, oui, comme 30 minutes, là. Tu sais, Montréal-New York, 1h15.
C'est parfait, ça c'est très bien.
C'est en masse.
Moi, ça risque d'être plus ça au début.
Oui, ou on y va en voiture puis on prend notre temps. Les jeunes, les effets psychologiques chez les jeunes.
Ouais, ça c'est quand même là aussi, tu sais, quand je te parlais du délestage, qu'on va voir peut-être les effets à plus long terme de la pandémie, ben là aussi, là. C'est un dossier du bureau d'enquête ce matin qui tire la sonnette d'alarme sur ce volet également des effets psychologiques de la pandémie qui se font sentir chez les 12 à 17 ans. En fait, depuis le début de l'année, là, on observe une augmentation assez impressionnante des hospitalisations pour des raisons de santé mentale chez nos jeunes. Pour les deux premiers mois de 2021, les admissions des jeunes à l'hôpital pour un problème de santé mentale, ça a grimpé de 40% par rapport à la même période un an plus tôt. C'est énorme, là. Une explosion qui pourrait aussi se propager dans les prochains mois et les prochaines années, selon une pédiatre du CHU de Sherbrooke. Et entre autres, ben, parmi les signes qu'on peut observer, c'est une forte hausse des troubles alimentaires. Donc, les mesures sanitaires des 15 derniers mois seraient en contradiction aussi avec le développement des jeunes, selon les experts. Et là, ben, plus le temps file, plus on s'aperçoit que les conséquences sont très, très lourdes. Parce que, tu sais, pas oublier, là, c'est 12-17 ans, là, c'est un âge hyper important où, tu sais, on se forge aussi notre personnalité, on est en contact avec les autres, le contact avec les amis, c'est très, très important. Alors là, dans la dernière année et demie, l'éducation a été chamboulée, c'était plus l'école toujours en présentiel, ça se faisait à distance, les mesures sanitaires, tu peux pas voir tes amis à l'extérieur, bref, tu sais... Pour certains jeunes, je peux comprendre que ça a eu des conséquences très, très graves et il y a des problèmes qui ont pu malheureusement être exacerbés également dans cette pandémie et on voit que les chiffres le démontrent encore une fois.
Ouais, surtout si les jeunes chez eux, ça va pas bien. T'ajoutes
exact.
À ça. Ouais, oui. Non, c'est un vrai problème. L'autre mauvaise nouvelle, c'est ce 12e féminicide au Québec depuis le début de l'année.
Ouais, et une autre triste histoire, hein. Cette fois, c'est une femme de 56 ans. Lisette Corbeil, qui a été retrouvée sans vie hier dans sa résidence de Contrecœur. Et c'est la fille de son nouveau conjoint qui l'a retrouvée inanimée à l'intérieur alors qu'elle allait s'enquérir de son état. Blessée à la tête, elle était au rez-de-chaussée de la maison et son ex-conjoint, David Joly, lui, a été retrouvé au deuxième étage de la maison et il se serait enlevé la vie après avoir commis le meurtre de son ex-conjointe. Lui avait 49 ans. C'était deux personnes qui étaient connues dans la communauté de Contrecœur. La victime avait travaillé, entre autres, pour la municipalité, pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Et le meurtrier, lui, venait tout juste, au cours des derniers mois, de démissionner de la présidence de l'association Chasse et Pêche de Contrecœur. On apprend aussi qu'il y avait une demande pour lui interdire d'utiliser une arme à feu qui avait été faite à la cour par la police Richelieu-Saint-Laurent quelques temps auparavant. Ça, faudra des réponses là-dessus. Parce que comment expliquer effectivement que ce gars-là, ben visiblement, est-ce qu'il avait encore, est-ce que ça a été par arme à feu? Mais bref, ce 12e féminicide en 2021 au Québec, ça préoccupe énormément de gens, notamment les gens de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes qui craignent une hausse des violences causées par le déconfinement, la perte d'emprise des conjoints violents, parce que, bon, faut pas se leurrer, là, dans les derniers mois de la pandémie, il y a des conjoints violents qui ont eu une emprise sur leur conjoint-conjointe. Mm-hmm. Okay. Et là, ben, on déconfine. Il n'y a plus de couvre-feu, on déconfine, on recommence, dans certains cas, bon, à voir des amis ou quoi que ce soit. Alors, pour ces conjoints qui ont un sérieux problème, là, ben là, à ce moment-là, ben là, ça les insécurise, parce que là, hey, mon Dieu, tu sais, elle recommence à vivre, elle voit ses amis, tu sais, honnêtement, là, c'est pathétique, là. Tu sais, ce sont des, vraiment, là, c'est d'un geste d'une lâcheté incroyable. Mmh. On le dira jamais assez, Benoît, demander de l'aide. C'est un geste de courage.
Mais est-ce qu'il a été rencontré, ce type, ce Joly? Est-ce qu'on l'a averti? Est-ce qu'on lui a offert de l'aide? Est-ce qu'on a dit, là, il y a quelqu'un qui va t'appeler, tu vas répondre, puis tu vas aller en thérapie? Si tu saisis les armes de quelqu'un, là, c'est parce qu'il y a eu une plainte, puis c'est sérieux.
Oui, ben c'est ça. Et c'est ce bout-là qu'on n'a pas, là, à l'heure où on se parle, là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement eu une demande pour lui interdire d'utiliser une arme à feu par la cour. C'était la police Richelieu-Saint-Laurent là, qui avait fait cette demande-là à la cour quelques temps auparavant. Mais là, quel suivi il a été prodigué à cet homme-là? C'est ce bout-là qu'on ne connaît pas. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est face à un 12e féminicide au Québec. Vraiment une dame là dont les hommages se multiplient depuis hier. J'en ai lu quelques-uns. Une dame qui fracassait des plafonds de verre. Une dame très active, très impliquée dans sa communauté. Et encore une fois, ben, le Québec doit se regarder dans le miroir aujourd'hui.
Puis l'auteur présumé, ça c'est en Ontario, de l'attaque de London,
ouais.
Comparé.
Oui, a comparu brièvement là, par vidéoconférence cet avant-midi, Nathaniel Veltman. Il doit revenir en cours le 14 juin prochain. On sait qu'il fait face à 4 accusations de meurtre et à une accusation de tentative de meurtre. Et là, on en apprend davantage sur son passé. L'auteur présumé de cette attaque-là a dû prendre de la médication, notamment pour des troubles mentaux. C'est ce que rapporte CTV. Il était prompt aussi à la colère. La chaîne anglophone a eu accès à des documents judiciaires benoît reliés au divorce de ses parents. Et là, on peut lire dans ces documents-là qu'il s'était entendu pour que leur fils poursuive une thérapie. Il devait s'assurer qu'il ne soit pas seul avec ses plus jeunes frères et sœurs. Et il y a un rapport qui cite aussi qu'il était devenu particulièrement agressif vis-à-vis sa mère en marge du divorce. Maintenant, les motivations derrière son geste, ça demeure extrêmement nébuleux. La police pense que cette attaque-là a été motivée par sa haine des musulmans, mais on attend toujours la divulgation des détails qui pourraient mener à cette conclusion-là de la part de la police. Et je te mentionne en terminant que les funérailles de la famille vont avoir lieu samedi après-midi, une cérémonie qui se déroulera à l'extérieur du centre islamique sud-ouest de l'Ontario. Ça se passera à 13h30 et juste avant, il y aura une procession qui est prévue pour conduire le cercueil du centre funéraire vers le centre islamique. Cette famille, la famille Azal, a perdu 4 membres dimanche dans cette attaque-là. Le père, la mère, l'adolescente de 15 ans et la grand-mère qui ont été fauchées par la camionnette du suspect. Il y a un orphelin dans cette histoire-là, un petit garçon de 9 ans qui a survécu. Il est toujours à l'hôpital pour traiter, Benoît, des blessures qui sont qualifiées de sérieuses.
Ouais, c'est révoltant. Mais là, encore une fois, là, le problème de santé mentale est mis de l'avant. Est-ce que c'est juste une autre façon d'atténuer les gestes horribles qui ont été commis? Puis, tu sais, cette défense, là, tout à coup, de problème de santé mentale, on l'entend tout le temps. Même des cas de camions béliers, de terroristes, on sort toujours la cassette de la santé mentale. Mais c'est sûr qu'il faut que tu sois un peu cinglé pour tuer du monde de cette façon-là.
Mais tu sais, Benoît, il y a deux choses par rapport à ça. Oui, il y a la santé mentale, effectivement, mais aussi la radicalisation. Parce que, tu sais, si la police avance que cette attaque-là a été motivée par sa haine des musulmans, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Est-ce que ce gars-là était adepte de sites Internet? Tu sais, des fois, tu peux te radicaliser sur Internet avec les algorithmes. À un moment donné, vient un temps, puis on l'a vu, là, dans la pandémie, là, tu sais, avec les algorithmes, à un moment donné, t'as juste le même contenu, tu te gargarises du même contenu, puis là, tu penses que tout le monde autour de toi pense comme toi, alors que c'est pas ça du tout. Tu sais, c'est très, très, très... c'est très néfaste, ce type de radicalisation-là sur Internet. Bref, il y a beaucoup de questions en ce moment qui demeurent en suspens. T'sais, oui, il y a la question de la santé mentale. Des fois, ça a le dos large. Mais comment ce gars-là s'est radicalisé? Puis comment ce gars-là en est venu à haïr des musulmans?
Ben oui. Oh, regarde, on n'est pas sorti du bois. Hein. C'est la nature humaine à son pire. Ouais. Alexandre, on se laisse là-dessus. On se reparle demain, même heure.
À demain, Benoît.